Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM. Radio Campus, la radio de la communauté libre de l'Université libre de Bruxelles. Et on s'en mêle les pinceaux avec un long titre comme ça. Alors, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Alors, création, on ira voir du côté du Théâtre des Martyrs pour Gustave et Alexandre Dumas et son valet Gustave. On ira du côté du Caille Théâtre qui prend un spectacle qu'on a vu à Avignon, Violette de Meg Stuart, une chorégraphie. On ira parler de la reprise du Chagrin des Ogres au Théâtre National. On ira faire un tour du côté de Picadon Hiroshima au Marny. Et évidemment, moult annonces des sorties culturelles qu'on n'a pas vues et qui sont là pour quelques dates. Nicolas La Technique, bonjour Nicolas.
Salut, on est en tête à tête aujourd'hui.
On est en tête à tête, on ira voir Elisabeth par téléphone. Elisabeth qui justement est partie voir Gustave et Alexandre. Elisabeth, on t'écoute, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors, tu es allée pour nous du côté du Théâtre des Martyrs.
Voilà, tout à fait, dans la petite salle où il y a une proposition qui émane en réalité du Théâtre de la Valette à Ytre, donc qui viennent à la capitale. Et cette proposition s'appelle « Gustave et Alexandre » de Jean-François Villot, qui est un jeune auteur brabançon qui signe également la mise en scène de ce spectacle. Alors bien sûr, l'idée c'est un peu de savoir qui est Gustave et qui est Alexandre. Eh bien, Gustave est en fait un valet, le valet d'un grand homme, quelqu'un qui le sert, qui passe ses côtés... Qui passe sa vie un peu à ses côtés, et ce grand homme, c'est Alexandre Dumas. Alors ça pose évidemment tout à fait le cadre de ce spectacle, puisqu'on est dans une évocation historique d'un grand personnage. Et un des avantages de ce spectacle, eh bien effectivement, comme c'est souvent le cas dans ce genre de choses, ça nous donne envie d'en savoir un petit peu plus sur ce fameux Alexandre Dumas, qui est quand même un grand auteur.
Oui, bien sûr.
Qui a donné pas mal de choses au théâtre aussi, notamment Les Trois Mousquetaires. Et donc, qui était-il? C'est un peu ce que ce spectacle nous permet de savoir avec cette confrontation entre ce valet Gustave, qui lui est fictif, et cet Alexandre Dumas, qui était bon vivant quand même.
Confrontation sociale aussi.
Pardon?
Confrontation sociale.
Confrontation sociale, pas réellement, parce qu'il y a une complicité qui unit les deux hommes, et donc c'est pas spécialement ça qui apparaît, c'est plutôt quelque chose de bonne chère au sens gustatif du terme, et puis aussi les femmes qui jouent un rôle, même si elles ne sont pas sur scène, puisque c'est un spectacle avec deux comédiens, Bernard Doutre-Lemont et Léonine Macaronic, donc ce sont vraiment un petit peu les deux chevilles ouvrières du théâtre de la Valette. C'est un théâtre qui leur va bien dans l'ensemble, c'est un théâtre qu'ils connaissent bien aussi. Ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a quand même une certaine subtilité dans ce texte, il y a beaucoup de choses un petit peu fines, qui sont des anecdotes, on en apprend finalement beaucoup de choses sur cet Alexandre Dumas, des choses qu'on a oubliées, l'origine, qui était son père, il était aussi quateron. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, parce qu'il nous voit un très beau bronzage de Léonie Macaroni. Et voilà, l'un dans l'autre, avec des petits dialogues comme ça, on avance sur une petite intrigue, un petit peu une intrigue à 2 francs 50, mais bon, c'est pas grave.
On sent que c'est un spectacle qui joue plus sur le dialogue, la confrontation et l'échange de bons mots peut-être.
Oui, voilà, c'est un spectacle qui est aussi centré sur une certaine langue, qui n'est pas une langue contemporaine, bien sûr, et c'est peut-être un petit peu là que je dirais, ce qui m'a semblé un peu dommage, entre guillemets, c'est que quand même, on a parfois l'impression que les choses sont un peu à mi-donner. Alors que si on voit la situation, on a deux hommes qui se connaissent bien puisqu'ils vivent quasiment ensemble. Enfin, ils partagent en tout cas un endroit commun. Et la langue est un peu à mi-donner. Mais voilà, c'est parce que c'est aussi une langue qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Mais la subtilité est là et le public réagit à beaucoup de subtilité.
Est-ce que les comédiens entrent bien dans ce rôle ?
Les comédiens entrent tout à fait dans ce rôle parce que c'est vraiment quelque chose, je pense que ça a été écrit pour eux. Enfin, je ne sais pas les détails, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Ça leur va sur mesure, ils ont l'habitude de travailler ensemble, etc. Donc non, il n'y a vraiment pas grand-chose à leur dire de ça. C'est aussi un théâtre... C'est un théâtre, je dirais presque un théâtre plus à l'ancienne aussi, avec, parce que ça peut avoir de bien. Il y a un décor qui est à la fois métaphorique, puisqu'il y a un grand livre sur la scène, la salle, enfin des petites choses. On est dans ce réalisme-là. Donc voilà, c'est un petit peu surprenant quand on arrive au Martyr, surtout dans la petite salle où on a vu beaucoup plus de créations contemporaines. Mais pourquoi pas. Encore une fois, tout le plaisir de la langue, la finesse de ce texte quand même. Ce plaisir d'être confronté à un homme qu'on a un peu oublié, même s'il a compté pour nous, enfin dans notre culture. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup d'évocations de son époque, de ses contemporains, etc., et à un moment donné, on se paye un peu la honte, parce qu'on se dit « Ouh, qui sont tous ces gens-là »
Mais c'est vraiment un spectacle aussi, je dirais, de comédien, puisque l'interprétation est importante dans ce genre de spectacle.
Hein. Oui, bien sûr, l'interprétation est évidemment la base de tout. Bon, il y a des petits effets de mise en scène, entre guillemets, aussi. On n'est pas tout le temps dans le texte non plus, mais l'interprétation, elle est là. Avec la petite réserve que j'en ai, où j'ai trouvé par moments les choses un petit peu à mi-donner. Mais bon, c'est pas un obstacle majeur.
On rentre facilement dans ce spectacle. Donc, Gustave et Alexandre de Jean-François Villot, qui met également en scène avec Bernard Doutremont et Léonil McCormick, c'est à voir jusqu'au 22 octobre.
Tout à fait.
Du côté du Théâtre des Martyrs, www.théâtredesmartyrs.be.
Et donc, c'était Elisabeth par téléphone qui nous parlait justement de ce Gustave et Alexandre au Théâtre des Martyrs. J'en profite pour parler d'une reprise, Le Chagrin des Ogres de Fabrice Murgia. Fabrice Murgia qui a très vite surpris par ce premier spectacle au Théâtre National. C'est devenu c'est surtout un jeune qui a énormément de talent, qu'on a souvent vu dans comédien lui-même. Hein. Il vient de l'école de Liège et il nous a proposé à l'écriture et à la mise en scène Le Chagrin des Ogres, un univers assez phénoménal, un univers très visuel. Hein. Il adore le cinéma et on sent qu'il se dirige vers là. Il nous l'a prouvé par ses spectacles suivants. Le Chagrin des Ogres, Épinglon, qui va à l'Odéon pendant 15 jours au mois d'octobre, ce qui s'est jamais vu qu'une pièce francophone aille en France dans une scène reconnue comme ça. Donc c'est quasi un événement, je dirais pas une révolution dans le théâtre, mais c'est tout comme. Alors que raconte Le Chagrin des Ogres ? Il faut savoir que Murgia a une trentaine d'années, je crois, et pendant les faits divers de l'affaire du trou, de tout ce genre, il était adolescent, donc il a été un peu marqué, un peu stressé par ce truc très noir qui faisait peur aux enfants finalement. Et il en a fait un conte assez onirique, bien sûr, ça fait partie du conte, mais assez dur. Alors ici, il s'est inspiré de Bastien Bosse, vous voyez ce gamin qui est parti tirer dans son école, dégommer un peu tout le monde. Il s'est inspiré de Bastien Bosse, il s'est inspiré de Natacha Kampusch, qui a été séquestrée, et il en a fait cette plongée dans une espèce de bloc. Donc la scène, elle est très vaste, on voit des gens... Dans différents niveaux, il y a une femme comme ça qui est dans son coin, dans une cave, une jeune fille. Il y a un gars qui est un peu gothique, qui est à l'autre extrémité de la scène. Et il y a pour circuler dans tout ça une espèce de petite princesse comme ça en robe de tulle avec un micro qui est le narrateur, on va dire, hein, de tout ce fil d'histoire. Et elle est... Elle a une douceur innocente et en même temps, elle a une voix qui est transformée par la technique, qui en fait une espèce de petit monstre cynique face à ses univers.
Et en fait, est-ce qu'elle relie ses solitudes, en fait ?
Elle fait le lien. Elle fait le lien du récit. Elle interpelle, par exemple, Natacha, qui s'appelle Natacha. Elle joue tantôt sa mère qui lui râle dessus. Elle la met dans ses retranchements et elle prend un plaisir cruel à appuyer là où ça fait mal. Et alors, on va suivre les deux jeunes et on a l'impression qu'on est dans deux blogs différents. Donc, il y a Natacha qui est dans sa cave. En fait, c'est une jeune fille qui rêve d'être séquestrée. Et alors, elle fait des références à Natacha. Et il y a le jeune gars qui est gothique, adolescent, qui se cherche et qui, en fait, montre toute la violence qu'il a en lui et les fantasmes de tuerie. Et on est vraiment dans deux univers de blocs, dans une scénographie très, très sobre qui joue sur de la lumière et des choses très sombres. Et Fabrice Murgia s'est inspiré justement de certains blocs pour écrire son texte. Et surtout, on est entre le conte et l'univers internet et les faits divers qu'on a tous connus. Donc à un moment donné, on rentre vraiment dans un drôle de conte et on est assez effrayé de voir comment le fantasme et la réalité se mêlent là-dedans.
Ce qu'il a exploité également dans d'autres spectacles, hein, aussi tu parles de blog, ce rapport aux technologies aussi, ces moyens de communication parfois solitaires, et il joue naturellement beaucoup sur le visuel pour montrer cela.
Hein. D'abord, il aime le cinéma, donc on sent clairement qu'il travaille là-dedans, on lui donne les moyens. Deuxièmement, il est dans l'incommunication à l'ère du virtuel. Quelque chose qu'on entend de plus en plus, hein, qui touche les artistes. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris des faits divers, sans plaquer le fait divers comme ça sur scène. Donc, il en a fait un conte avec trois personnes, peu de moyens finalement, bon, très technique, hein, peu de moyens parce qu'on est, voilà, il y a une bulle par là, il y a une autre bulle par là, comme dans des univers un peu séparés de chambres. Et il y a cette petite princesse morveuse, hein, faut bien le dire, une morveuse avec sa voix qui grince et qui parfois fait froid dans le dos. Donc voilà.
C'est à voir au National pour une reprise.
Oui, donc du 27 donc jusqu'au 1er octobre. Ça vaut vraiment le coup. Ça a été, on va dire, un spectacle phare. Hein. Si on voit l'histoire du théâtre, si on devait l'écrire tôt ou tard, ce spectacle aurait sa place tant il a surpris par son propos et puis par sa forme. Et ce jeune gamin de talent qui est accroché au National et qu'on va suivre longtemps. Voilà, Fabrice Murgia, Le Sacrin des Ogres au Théâtre National. Petite pause musicale.
La conspiration.
On est de retour dans La Conspiration des Planches. Et ce que vous venez d'entendre, c'est une illustration musicale d'un spectacle, Nurten.
Oui, et je crois qu'il s'appelle Arnaud Blampin, qui fait l'univers sonore de ce spectacle. Et ce spectacle, c'est Picadon Hiroshima d'Alex Lorette au Théâtre Marny. Nous, on l'a vu en général, donc en répétition, pour des questions d'agenda. Et ma foi, on a été... pas agréablement surpris parce qu'on connaît le talent d'Alex Lorette qu'on essaye de suivre, mais on a été vraiment impressionné par son travail. Premièrement, il fait un casting avec des comédiens, des grands comédiens qu'on n'a jamais vus ensemble. Il y a Guy Tennyson qui est metteur en scène, il y a Jo Deuzer qui est explosive, elle peut lire le bottin. Il y a Sophia Lebout aussi qui est incroyable. Et puis il y a deux autres personnes qu'on connaît. Non, il y a Kaku. Kirsch, évidemment, une jeune comédienne, et il y a Olivier Prémel, qu'on connaît moins, et Cédric Julien, qu'on connaît par ailleurs. Donc il y a déjà un beau casting qui surprend, parce qu'on n'a pas l'habitude, les jeunes metteurs en scène d'habitude circulent avec leurs copains et tout ça, et donc là c'était déjà une première réussite, c'est d'avoir mélangé les grands noms, et donc voilà. Alors Picadon.
Ce spectacle nous emmène au Japon ?
Hiroshima. Et donc ça n'a rien à voir avec Fukushima déjà, il avait écrit bien avant les événements, donc ce n'est pas opportuniste. Et c'est surtout une question sur la disparition des corps. En fait, il avait travaillé sur le 11 septembre, il avait fait beaucoup de lectures et il voulait parler de cette disparition des corps. Apparemment, peu de gens s'engageaient à parler des disparitions des corps du 11 septembre, donc il s'est pas rabattu, mais il a en tout cas, dans ses lectures, il s'est accroché justement à cet Hiroshima et une question dans le spectacle. Est-ce qu'on a quelque chose à avoir avec ça, avec tous ces morts qu'on ne voit jamais? Et c'est une bonne question parce qu'on voit de Hiroshima le champignon atomique. Hein, on n'imaginait même plus qu'il y avait finalement des gens dedans. On dit que globalement, il y a 250 000 morts, 75 000 au premier coup de la bombe. Et ce spectacle nous emmène dans des récits de rescapés à travers différents tableaux. Ça s'amène d'une façon très, très, très douce, avec une douceur, parce qu'on est dans un prologue où on voit tous ces gens groupés, 6-7 personnes comme ça, groupées en devant de scène, qui probablement, on est au mois d'août, probablement vont en vacances au Japon. Et déjà, on sent des malaises parce que dans une choralité de répliques, certains disent est-ce qu'on a à voir quelque chose avec ça? Est-ce qu'on a une responsabilité quelconque? Et entrecoupé de choses très drôles. Ah, moi, j'aime pas le sushi. Et donc, voilà. Donc, c'est un univers choral. Et on va justement circuler entre le cœur, hein, tous ces groupes, et des monologues individuels où le récit des rescapés arrive. La musique qu'on écoutait justement en pause musicale, par exemple, c'est un soldat qui n'était pas là au moment d'Hiroshima et qui arrive là, qui va voir un peu sur les ruines. Et au moment où lui fait son solo, son monologue devant un micro, tout le reste du groupe est dans un coin de salle où ils font une chorégraphie de spasmes en train de brûler à même la scène, et c'est très 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 impressionnant. Alex Lorette a fait une bonne scénographe, alors là ça va être Hélène Kufrat, qui a fait un plateau assez japonisant, scène blanche avec un rideau de tulle. Il y a juste des petits effets de rien du tout. On sent dans des couleurs très simples, hein, le blanc, le gris, le noir, de petites touches rouges. Il y a un univers hyper japonisant. Il y a une fluidité des scènes qui est aussi très belle, parce que ce sont des séquences, hein, c'est des fragments, comme on dit, ou des tableaux, qui sont amenés à travers ces différents monologues. Et il y a une espèce de tulle comme ça d'en haut qui descend, qui fait l'ombre du Japon. Mais aussi, moi, j'y ai vu le côté très métallique d'une bombe qui explose. Ce qui m'a impressionné, parce que je ne m'y attendais pas du tout, c'est le récit de rescapé qui explique l'arrivée de la bombe, le champignon qu'on voit au loin, la catastrophe qu'ils sont en train de vivre, qui sont après la catastrophe, et puis d'autres qui n'ont pas vu la catastrophe mais qui la vivent aussi parce qu'ils ont perdu un parent, et justement ce problème à travers le temps, parce que de temps en temps on retrouve le groupe très éphémère, ce n'est pas du gadget, on retrouve le groupe aujourd'hui, hein, ils sont à un moment donné dans un musée, par exemple, et ils reparlent de ça, mais c'est très éphémère. Ce qui est intéressant, ce qui est parfois un peu long, c'est parce qu'on a trop de récits, mine de rien, mais c'est très bien amené, et c'est un travail impressionnant. Moi, je l'ai vu hier, c'est encore tout frais. J'ai l'impression que c'est un spectacle qui va vous poursuivre pendant un jour ou deux, comme ça on a besoin d'une descente face à ce Picadone.
Est-ce que dans le récit, justement, et dans le ressenti, est-ce qu'on y voit un peu de sagesse orientale, ou en tout cas une culture orientale du ressenti, du sentiment?
Il y a la culture orientale de la nature,
oui.
de la reconstruction.
Message écologique.
Il y a une douceur. Et il y a surtout un questionnement, c'est même pas fataliste, c'est un questionnement, voilà, est-ce qu'on a... Parce qu'on est aussi dans la position de l'occidental, hein, est-ce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ces morts? Il y a une pudeur, mine de rien, dans les récits racontés, et il y a un travail, une écriture comme ça, circulaire, qui va et qui vient entre les récits et l'époque aujourd'hui. Et les questionnements sont pas tapés au marteau, hein. Est-ce qu'on avait une responsabilité, oui ou non? Est-ce que c'était nécessaire? Moi, c'est quelque chose qui m'a très fort choquée. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'on avait une responsabilité? Et voilà. Et cette musique-là, c'est la partie un peu la plus contemporaine, on va dire. C'est très, très pictural, hein, très plastique. Et là, c'est la partie un peu plus boostée de la chose. Il y a des petites chorégraphies qui sont très bien amenées. Ça dure 1h30, moi j'aurais raccourci un peu, parce qu'à un moment donné on reçoit un peu trop de récits, mais le fil est tellement beau, le jeu est tellement bien fait qu'on plonge dans une histoire, et moi je n'ai fait aucune référence à Fukushima, je n'ai fait aucune référence au 11 septembre, on est là dans une plongée
dans l'instant, cette période. Quoi, voilà. Donc on rappelle, hein, c'est un morceau de Arnaud Blampin qui a fait toute la création musicale autour du spectacle, non?
Oui, mais c'est juste une partie, le reste est très doux. Hein. Il y a très peu de musique, très peu d'exploitation musicale. Picadone, Pika qui... Apparemment, les Japonais parlent de Picadone pour dire Hiroshima. Pika qui serait l'éclair et Don le bang. Voilà. Alors, on ne voit plus le champignon Hiroshima autrement depuis.
Picadone donc, et c'est à voir?
C'est à voir jusqu'au 8 octobre au Théâtre Marny, Alex Lorette, au Théâtre Marny, 8 octobre. On est parti dans autre chose, mais avec cette même sonorité. Moi, je vous emmène voir Violette au Kai Theater de Meg Stewart, la chorégraphe qui fait souvent du théâtre, de la chorégraphie théâtrale. Ici, elle est venue avec quelque chose de très abstrait. Violette, n'allez pas comprendre ce qu'il y a derrière ce mot. Moi non plus, je ne le comprends pas. Elle ne donne pas ses notes d'intention. Toujours est-il qu'on l'a vu à Avignon. Alors, à Avignon, c'était une drôle d'expérience parce qu'on nous a servi des boules quies à l'entrée. On s'est dit, oi, 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 on a été mélangés avec tous ces... tout un public de différents âges. Et j'avais un jeune et un vieux à côté de moi, donc c'était intéressant parce que tous les deux ont mis leur boule quiesse et moi, je me suis dit, je ne vais pas les mettre. Et mal m'en a pris, je ne sais pas trop. C'est 5 personnes ordinaires qui sont sur scène. La scène, elle est blanche, le mur est noir, donc on voit déjà un minimalisme de couleurs. À côté, il y a un gars avec son ordi, sa batterie, son matos musical. Et ces gens ordinaires vont faire de la micro-dance, vont tout doucement bouger un bras, un œil, une jambe dans un détail avec cette musique qui va les emmener de plus en plus loin, de plus en plus loin. Logique, la ligne se détache. À un moment donné, on devient dans du chaos. C'est une chorégraphie de spasme, on va dire, avec cette musique qui va de plus en plus forte. C'est une espèce de techno-électro-pop. Et le procédé est simple. Ces gens sont totalement éclatés dans des mouvements qu'ils ne savent même plus arrêter. Et à un moment donné, forcément, on va revenir à la descente, hein, à la descente au calme plat et la logique du geste mécanique qui va revenir chez ces danseurs. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un grand ouf dans la salle parce que la musique était apparemment assourdissante pour tout le monde. Donc moi, je dis, on rentre ou pas dans ce spectacle, mais c'est plutôt une expérience sensorielle. La danse et la chorégraphie de Meg Stewart ici est très, très, très basique. Hein. C'est quasi, on tape de la main, on tape du pied, il y a un geste qui part malgré, sans maîtrise du corps, parce que c'est la musique qui détient tout le pouvoir de ce spectacle. Et voilà, donc c'est comme une grosse vague qui monte et qui reclaque au sol. Ça se termine dans une douceur et une mécanique, mais on sent qu'on a vécu pendant une heure une envolée
une heure intense, donc.
Voilà. Et alors les boules quiesses, on les enlève. Et ce qui est intéressant, juste pour la petite histoire, je ne l'ai pas vu, mais à Avignon, on en parlait, c'est qu'il y a une bonne femme du public qui a été pris dans le mouvement et qui est parti danser. Et alors, on l'a éjecté gentiment, on l'a mis dehors, elle était en larmes, elle est revenue. Donc ça, c'est un journaliste qui raconte un peu cette anecdote. Ouais. Moi, le seul reproche que je ferais à ce spectacle, c'est que finalement, on est dans un rapport très classique, frontal, salle scène, et on aurait aimé être encore plus proche, ou un truc circulaire, ou un truc mélangé, parce qu'il y a une énergie dans ce spectacle qui est assez communicatif, et ça aurait été bien que le public leur soit en pleine tronche. Quoi,
voilà, donc, en frontal. Voilà.
Donc Violette, c'est au Caille Théâtre, et alors c'est le 27, c'est quand?
C'est
le...
C'est jusqu'au... Non, c'est 29, 30 et 1er octobre. 29 et 30 septembre et 1er octobre au Caille Théâtre, www.caille-théâtre.be.
Voilà, Meg Stewart. Alors quelques annonces de danse, Nicolas, Latitude.
Latitude, évidemment, au Hall de Scarbeck, qui ça se déroule en ce moment, hein, je crois, avec plusieurs spectacles qui vous sont proposés, et notamment Nurten, quelques indications.
Donc jeunes, c'est des jeunes chorégraphes et des non connus. Il y a eu Mathilde Monnier qui a fait une danse sur PJ Harvey. Il y a Buffard qui va faire une danse sur la guerre. Tiens, Hiroshima et la guerre, on retrouve. Là, c'est sur des packs à danser. Mm-hmm. C'est une logique facile, enfin facile. C'est une belle logique de travail de chorégraphie, hein, le pack à danser des soldats. On ira aussi dans des. Moi, j'ai vu Daniel Liman, qui est un chorégraphe américain basé à Bruxelles. Tout le monde en fait un foin, un grand metteur en scène. Et j'ai trouvé que sa danse Zombie à Poria, qu'on avait vue à Lille, est très anecdotique. Il faut savoir que c'est la programmation d'une programmatrice de Lille, hein, qu'on donne le Hall de Scarbeck.
Une carte blanche, quoi.
Oui, c'est un truc transnational. Donc c'est intéressant de voir une programmatrice de l'étranger qui revient. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que cette femme est engagée. Et elle a mis spécialement des spectacles avec plusieurs danseurs, en rappelant une chose très essentielle qu'on oublie, c'est qu'avec la crise actuelle et même avant, on a l'impression qu'on va avoir des solos ou des duos. Et les gens ont l'impression que la danse contemporaine, c'est que des solos et des duos. Ce n'est juste qu'un effet de la crise. Et donc, il était bien de le rappeler. Donc, elle fait des chorégraphies. Elle a engagé, elle a accueilli des chorégraphies à plusieurs danseurs pour marquer le coup aussi de cette dérive, entre guillemets. Donc voilà, il y a plusieurs spectacles. Il y a Buffard, Alain Buffard, qui est hyper connu. Il y a des jeunes comédiens et on est aussi dans la danse performance. Il y a un des spectacles qui joue avec un casier de bière, par exemple. Donc voilà, il y a tout et...
Et son contraire, on va dire.
Je n'osais pas le dire parce que oui, des fois, on se dit qu'on va avoir certaines performances, on se dit qu'est-ce qu'on fout là. Mais ici, c'est plutôt, voilà, il faut s'activer en mode curiosité.
www.al latitudelle.be pour tout savoir sur ce programme Latitude Lille-Bruxelles au Hall de Schaerbeek, bien évidemment.
Voilà. Alors, Océan Nord, à côté des Halles de Schaerbeek, juste pour parler de In Vitrine. Pourquoi ? Parce que on aime les comédiens qui sont derrière tout ça. Alice Hubal, Marie Lecomte et Hervé Piron, qui sont des bons comédiens, qui se sont mis dans un collectif qui s'appelle Rien de spécial et qui nous font un spectacle sur la société du fun et le bonheur obligatoire. Et donc, ils vont jouer des codes du théâtre.
Rien de spécial parce qu'ils parlent du quotidien, justement.
Du quotidien. Ils ont travaillé 4 ans quand même là-dessus, sur le temps, la conformité. Et ils vont mettre en abîme une fête et peut-être nous prendre à partie. Je crois que c'est des petites jauges, donc faites attention, réservez à temps. Ça s'appelle In Vitrine, En Vitrine, par un chouette collectif. En tout cas, les comédiens sont intéressants. Et c'est jusqu'au... Nicolas, j'ai le flyer jusqu'au 8 du 10. Voilà. On en reparlera la semaine prochaine. Moi, je vais aller faire un tour de ce côté-là. Et alors, Nico, des marionnettes allemandes.
Ah, des marionnettes allemandes du côté du Volubilis qui viendront pour 2 représentations seulement. Ce sera ce 37 ans et ce 1er octobre. Ça s'appelle Infinita et les créateurs de ce spectacle visuel, on nous dit, c'est la famille Fleuse qui nous enchante avec des espèces de clowns masqués comme ça, en humour, illusion, et qui nous transporte en fait dans le monde de la vieillesse. Comment aborder cet âge-là où tout devient peut-être un petit peu plus difficile au niveau physique, mais peut-être plus facile aussi au niveau psychique et psychologique. 4 vieillards résidant d'une maison de retraite qui nous entraînent donc dans leur vie et nous offrent cette extraordinaire mosaïque de la vie, délicat étant, nous promettons, et drôle surtout.
Et les images sont très impressionnantes parce que c'est des petits nains de jardin, hein, des petits gamins avec des visages de vieux, ça fait toujours peur.
Oui, la chaise est évidemment plus difficile à atteindre quand on est enfant, mais peut-être pour s'asseoir et se relever quand on est vieux également. Donc Infinita de la famille Fleu, c'est au Volubilis le 30 septembre et le 1er octobre, volubilis.be. Et on parlait de performance, et on aura une nuit quasi complète de performance.
La nuit blanche, évidemment.
La nuit blanche, la nuit de ce 1er octobre avec plusieurs spectacles. Impossible de tout vous citer, la performance de Dominique Thirion, Laisse-moi te venir, épisode 1 et 2, parce qu'il y a plusieurs épisodes, mais ils ne seront pas tous présentés, et qui nous met en fait, qui nous raconte des histoires d'amour en danse, mais des histoires qui sont soulignées par des textes très littéraires, des poèmes qui sont récités comme ça en frontal de manière très littéraire et interrompues par des danses. Je crois que c'est vraiment un spectacle, j'ai pu voir un extrait, qui est bien pour ce genre d'événement également, où les gens se promènent, viennent chercher certaines choses, prennent des choses au passage comme ça un peu par hasard. C'est vraiment des formes qu'il faut penser. On ne peut pas avoir un spectacle d'une heure et demie. Voilà. Il y a aussi d'autres performances comme Mort d'une putain, le triptyque déambulatoire de Benoît Faucan, Salerno et Amaury Davister, où une créature assez bizarre, une espèce de grande plante un peu... aguicheuse comme ça, mais en fin de carrière, on va dire, eh bien, essaye d'appâter le public et se balade comme ça au milieu de tout. Il y a également la compagnie Jolly Zoo qui est là avec un spectacle que je crois que... Voilà, tout à fait.
Un duo dans un brouillard sur l'identité et la frontière.
Voilà, donc ça se passera toute la nuit du 1er octobre. Ça commence, je crois, sur le coup de 19h. Pour les heures, rendez-vous sur le site www.nuitblanchebrussels.be.
C'est quand même une expérience de vivre un spectacle en plein milieu de la nuit. On a l'impression qu'on est complètement ailleurs.
Et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend,
bien
évidemment.
Sûr. Ainsi se termine la conspiration des planches. On a parlé du maître et de son valet. On est parti voir les récits des rescapés à Hiroshima. On est parti voir les faits divers, la peur de l'adolescent face aux enlèvements, face aux fantasmes, face aux pédophiles, face aux meurtriers des ados. Enfin, toute cette période qu'on a vécue et qui est toujours là en sous-main, dans le chagrin des ogres. On est parti voir Violette, la danse manipulée par la musique, le corps manipulé par la musique. Et on est parti faire un tour dans les annonces, une vitrine, la société du fun, le festival Latitude, danse contemporaine, performance, nuit blanche et les vieux crados en marionnettes à l'allemand. fascinante. Il y a toujours un autre univers, Infinita à Volubilis. À la semaine prochaine. Salut Nico, bonne planche.
Merci et n'oubliez pas le podcast de cette émission. Vous le retrouverez sur demandezleprogramme.be et également citer que maintenant nous sommes disponibles dans le centre de ressources de la Bellone, qu'on remercie d'ailleurs pour sa collaboration. Belle semaine à vous et www.radiocampusbruxelles.org pour toutes les informations. La constelación.